Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Alors évidemment, tout le monde le sait, Star Wars, les derniers Jedi, eh bien, sont maintenant sur les écrans. Mais on va pas vous parler de ça, on va plutôt vous parler eh bien, des autres films qui sont, alors même pas en concurrence avec Star Wars, mais les autres films qui sont dans les salles depuis le 13 décembre. Et toi Manu, t'as vu peut-être le, alors, un des Challengers, parce que ça pourrait être un film familial. C'est Le Crime de l'Orient Express.
Oui, la nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie par Kenneth Branagh. Et je vous parlerai aussi de Mariana et de Lucky.
Et Mariana, donc film chilien de Marcela Saïd, eh bien, ce sera l'occasion d'écouter la réalisatrice qu'on a pu rencontrer. Et puis, on aura une autre interview, c'est celle de Sofia Jama, pour un film plutôt attendu et récompensé, les Bienheureux. Et puis, je vous parlerai aussi d'un autre film encore plus confidentiel, celui-ci, L'Intrusa, de Leonardo Di Costanzo. C'est Cinérama et on commence par Un Crime.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
C'est quand même quelque chose, cet enchevêtrement d'inconnus. Enfermés ensemble pendant des jours, qui n'ont rien en commun sauf le besoin d'aller d'un endroit à un autre, et qui ne se reverront jamais. Un passager est mort.
Alors quel est l'intérêt en 2017 de s'atteler à une nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie, plus de 40 ans après celle honorable signée par un Sidney Lumet en petite forme? Alors si le Woody Night classique constitue une forme très cinégénique, se déclinant en sous-genres comme le slasher, le giallo, le thriller érotique façon Basic Instinct, en revanche adapter un roman de la plus célèbre romancière anglaise est souvent une fausse bonne idée. Alors ce qui fonctionne sur le papier devient extrêmement poussiéreux et pénible à l'écran, surtout lorsque les scénaristes décident d'être fidèles au livre d'origine. Alors, mais peut-il en être autrement, tant les intrigues souvent brillantes imaginées par Agatha Christie relèvent de l'horlogerie la plus précise? Alors, seul peut-être Pascal Thomas, avec Mon petit doigt m'a dit, avait réussi à instaurer un petit décalage grâce à l'interprétation de la formidable Catherine Froh. Alors, Le Crime de l'Orient Express ne vaut que pour son intrigue diabolique et, il faut le dire, surprenante. C'est à peu près le seul intérêt de l'adaptation luxueuse et pompeuse de Kenneth Branagh, qui s'évertue comme un fou à vouloir moderniser le matériau original avec une mise en scène prétentieuse et gratuite. Alors, pour aérer le dispositif théâtral, il multiplie les plans panoramiques extérieurs.
Vous pensez qu'il a été tué ?
Non, mais il était en excellente santé et il avait des ennemis.
En effet, il a été assassiné.
Seigneur, un meurtre ici ?
Paix à son âme.
Quelqu'un est venu fouiller dans ma cabine en plein milieu de la nuit et personne n'a voulu me croire.
S'il y a eu un meurtre.
Mais que se passe-t-il ?
Alors il y a un meurtrier. Le meurtrier est parmi nous. Et chacun de vous est suspect.
Et vous, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Hercule Poirot. Et je suis sans doute le plus grand détective du monde.
Il a un peu oublié la modestie, Hercule, non ?
Oui, mais Kenneth Branagh aussi, je pense. parce que cette super production prestigieuse, dotée d'un casting démentiel, Johnny Depp et Michelle Pfeiffer en tête, alors reprend sans dévier d'une ligne l'intrigue du roman. Donc un meurtre a lieu dans un train, l'Orient Express. Hercule Poirot, qui se trouve à bord, mène l'enquête. Point. On n'en dira pas plus. Évidemment, Branagh, infidèle à sa légendaire mégalomanie, s'est dit que lui seul pouvait interpréter le célèbre détective. Alors dire que l'acteur cabotine est un doux euphémisme. Engoncé dans son costume et affublé d'une moustache imposante, il est, de la première à la dernière image, assez pénible. Il nous fait amèrement regretter Peter Ustinov, qui a endossé le rôle de Poirot plusieurs fois, avec davantage de classe et surtout de distance. Et si, comme moi, vous avez lu le roman, soit vu le film de Lumet, les deux heures vont paraître extrêmement longues, malgré tous les efforts du réalisateur pour moderniser l'histoire à coups de mouvements de caméra gratuits, d'effets de montage foireux et de décors clinquants sur fond vert. Mais le pire est sans doute l'absence totale d'humour qui culmine lors d'un dernier tiers mélodramatique où le réalisateur, qui là n'a peur de rien, reproduit la scène du Christ pour pointer l'éventuelle culpabilité des suspects attablés comme les apôtres. Et là, c'est assez ridicule. À moins que ce soit de l'humour, et là, je n'ai pas tout à fait compris. Mais bon, un navet qui confirme à mon sens en fait la médiocrité d'un cinéaste que certains ont pris pour un auteur à l'époque d'Henri V ou de Beaucoup de bruit pour rien, mais qui au final ne mérite guère mieux que de filmer les aventures de Thor qu'il avait réalisées il y a 5-6 ans déjà.
C'est peut-être plutôt Thor qui pourrait rivaliser avec Star Wars et sans doute pas ce crime de l'Orient Express.
Non, je pense pas que ça sera un grand un succès parce que ça peut attirer qu'un public quand même assez, assez âgé malgré tout. Je vois pas trop les jeunes se précipiter à aller voir un film pareil.
D'Agatha Christie. Crime de l'Orient Express, donc un film dans les salles depuis le 13 décembre, et c'est le cas aussi des Bienheureux de Sofia Djama, qu'on va pouvoir entendre dans Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
La guerre civile algérienne qui a frappé le pays dans les années 90, c'est dans la mémoire de tous les Algériens. Mais il ne s'agit jamais de parler du mot de guerre, mais plutôt d'employer des euphémismes comme tragédie nationale ou décennie noire. Cette guerre civile a touché toutes les couches sociales d'une manière ou d'une autre et plusieurs générations vivent avec son fantôme. Et avec les Bienheureux, Sofia Djama a souhaité mettre en lumière l'après-guerre. Pour cela, elle nous emmène à Alger lors d'une nuit vécue par un couple de quadragénaires et 3 adolescents, histoire de dégager 2 points de vue générationnels. Il y a d'abord donc un couple formé par Nadia Kassi et Sami Bouajila. Lui est médecin et elle professeur d'université. Tous deux ont fait partie des militants qui ont participé en octobre 88 aux émeutes qui ont conduit à l'ouverture démocratique du pays. Et la réalisatrice interroge donc leurs illusions et le moins qu'on puisse dire c'est qu'au moment de fêter l'anniversaire de leur mariage, eh bien ils ne sont pas d'accord sur le passé, le présent et le futur. Alors on suit également leur fils et ses amis étudiants, l'occasion de prendre le pouls de la jeunesse qui tue l'ennui avec du shit et de l'alcool. Alors Sofia Djama nous laisse entrevoir l'immobilisme d'un pays qu'il vaudrait mieux quitter. Pour cela, elle use d'une mise en scène centrée sur ses personnages, mais aussi la ville qui les écrase. La vision cinématographique de la réalisatrice est naturaliste et passe par la précision des situations, qu'il s'agisse des rapports entre le couple, des rapports entre les jeunes ou même de tous ces personnages avec la société algérienne. La tension est permanente et les contrastes générationnels sont marqués. Alors autant les jeunes changent régulièrement d'espace, intérieur ou extérieur, autant les adultes, eh bien, eux, sont plutôt statiques et enfermés. La réalisatrice n'oublie pas de nous donner un point de vue sur la pesanteur de la religion, car à l'issue des années 90, l'ouverture démocratique a donné lieu également à la victoire du conservatisme religieux. On voit ainsi un des personnages plutôt pieux, qui tente de se faire tatouer une sourate du Coran sur le corps, ce qui apparaît aux yeux de tous comme un sacrilège. Les Bienheureux est un film patient, porté par des situations convaincantes, et des comédiens concernés. Alors il y a le couple Sami Bouajila, Nadia Kassi, mais aussi une toute jeune fille sous les traits d'un personnage issu des quartiers populaires de la ville d'Alger. Elle a tapé dans l'œil du jury de Venise puisqu'elle a décroché là-bas un prix d'interprétation. Le film a remporté également le prix du jury étudiant de la première œuvre et surtout la mention du grand jury du festival du Cinémède de Montpellier. Et c'est là-bas que nous aurions pu la rencontrer, la réalisatrice, si elle n'était pas arrivée en retard. Et oui, quand on dit 9h30, c'est pas 10h15. Mais du coup, Christiane Passevent de la revue Divergence avait posé son enregistreur sur la table et nous a fourni le son. On la remercie et on écoute donc la réalisatrice Sofia Djama, réalisatrice des Bienheureux.
C'est un film où la politique, où l'extérieur a atteint l'intimité. Je voulais raconter l'intimité des gens qui a été noyée et par ce qui s'est passé.
Tu regrettes d'être resté, c'est ça? On s'est battu quand même, ça compte pas pour toi.
On a survécu, c'est déjà beaucoup.
En fait, il y a eu octobre 88, et c'est pour ça que je décide que ce couple, c'est un couple de 88-ards. À l'instar d'un couple français qui serait un couple 68-ards, qui au fil du temps va s'embourgeoiser, dans leur cas, ils vont s'embourgeoiser, ils vont devenir de plus en plus réac. Ils vont oublier leurs engagements petit à petit parce qu'il y a le pragmatisme de la vie et voilà.
Et alors, Babak, pourquoi tu t'es démené pour qu'il soit scolarisé dans un lycée français?
Pour qu'il ait un meilleur niveau, c'est tout. Puis tu sais, il est plus très français, ce lycée.
Il est malheureux ici.
Oh, mais pas ce soir,
s'il te plaît. Il est malheureux, je t'assure. Ça m'est...
Pas ce soir, pas ce soir.
Pourquoi tu veux pas qu'il aille finir ses études ailleurs?
Mel, pas ce soir. T'as
ça
pas
lui
envie
permettrait
qu'on...
d'avoir un bagage, un nouvel horizon, je sais
Mel,
pas.
Viens, on gâche pas l'autre soirée, s'il te plaît.
Un sacrifié, ça va être un sacrifié. C'est ça que tu veux pour lui ?
Il n'y a pas de point d'insistance, en fait. Il a juste la volonté de raconter un couple qui s'use dans un contexte historique et politique qui est le nôtre. Mais à la fin, c'est l'histoire d'un couple qui s'use et d'un conflit générationnel entre deux générations, l'une qui a été bercée par de l'idéologie, qui a été bercée par des idéaux, qui a été bercée par un idéal d'une Algérie qui leur a été promis et finalement qui n'est pas celle dont ils héritent. Et de l'autre côté, une génération qui est leurs enfants, qui a vécu une guerre civile, et plus le conflit générationnel qu'on peut avoir n'importe où ailleurs dans le monde, entre parents et enfants. Et c'est ce que je voulais mettre en fait en évidence, c'est qu'il y a un contexte politique et historique très fort dans le film, d'abord d'Algérie, mais aussi de la ville. Je voulais raconter aussi une ville, Alger, le personnage central aussi du film. Mais en même temps, je voulais élargir un peu plus en disant que bon, on n'est pas plus différent. C'est-à-dire c'est un couple qui s'use d'un côté, c'est un enfant qui est en conflit avec ses parents. Voilà, c'est aussi ça.
Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe ? Tu rêves ou quoi ? Il n'y a pas une fac qui va t'accepter.
Ouais, à la base, c'est ton projet, mais j'ai dit allez. Mais tiens, tu t'es jamais demandé si ça allait me plaire ou si je pouvais le faire ?
Si tu t'appliques, tu y arriveras, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus.
Anna, je te parle pas que des études uniquement, moi. Je te parle de refaire ta vie là-bas. Tu recommences tout à zéro, t'as pas d'amis. Je suis bien ici. Arane, écoute-toi, Anna, j'ai pas envie de partir.
Peut-être. Il y a des tas de choses que tu vois pas maintenant et qui vont te paraître insupportables dans quelques années, je t'assure. Je sais de quoi je parle.
Les jeunes arrivent plus ou moins à se croiser. Les adultes ne se croisent plus. C'est pour ça qu'ils arrivent, quand ils arrivent à la Madra, qu'ils se font jeter. Parce que, quelque part, ils étaient encore dans une vision coincée de leur vie d'époque et qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Ils se prennent un peu l'Algérie au fur et à mesure dans la gueule. Sauf l'épouse, parce qu'Ahmed, justement, son désir absolu de départ, c'est qu'elle, elle n'est pas déconnectée. Elle est peut-être un peu surconnectée, parce qu'elle en est complètement désillusionnée, elle n'a aucun espoir par rapport au pays, au début du film. On le voit clairement qu'elle est totalement désillusionnée, sa seule volonté c'est de partir. Peut-être qu'elle se trompe hein, aussi.
Tu refais l'histoire. Ce pays est trop abîmé, sa mère. Je ne veux pas lui donner mon fils.
C'est ici que ça se passe.
Vous écoutiez Sofia Djama, réalisatrice de Les Bienheureux, dans les salles depuis le 13 décembre. Donc un film, alors j'ai aussi mis en avant eh bien, les dialogues. Hein. On sent que c'est nourri de dialogues. Donc vraiment une position naturaliste hein, pour ce film, qui est par ailleurs rythmé voilà, entre les jeunes qu'on suit et puis ce couple de quarantenaires. Et ça donne énormément d'enseignements en fait, sur l'Algérie telle qu'elle est après cette guerre. Ce n'est pas un film qui se passe en 2017, c'est un film qui se passe il y a peut-être une dizaine d'années. Voilà. C'est un peu le point de vue qu'a choisi Sofia Djama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Lucky est le premier long-métrage du comédien John Carroll Lynch, éternel second couteau aperçu dans un nombre conséquent de films et séries, alors notamment Shutter Island, Zodiac, Gran Torino ou tout récemment Jackie. Alors le genre d'acteur immédiatement reconnaissable mais dont on ne se souvient jamais du nom. Même en s'appelant Lynch, qui n'a rien à voir du coup avec David, qui pourtant s'amuse à faire l'acteur dans le film qui nous concerne. Alors c'est aussi la dernière apparition de l'immense Harry Dean Stanton, décédé peu de temps après le tournage. Alors cet acteur mythique, hein, immortalisé à jamais par sa prestation géniale dans Paris, Texas, quasiment le seul film où il a le premier rôle d'ailleurs. Il a joué aussi lui dans plus de 150 films et pas des moindres, hein, Alien, Le Parrain 2, New York 97, Sailor et Lula, Inland Empire, Las Vegas Parano. Et Lucky ressemble presque à un hommage touchant et synchrone, sans le vouloir, à cet artiste à la physionomie reconnaissable entre tous, bien qu'ici, il apparaît très très amaigri. Alors Lucky est donc un vieux cow-boy solitaire qui mène une vie ordinaire dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il boit, fume, erre comme un vieux loup, traîne dans les bars avec ses amis, refait le monde. Bref, il tente de vivre, de continuer tant bien que mal, de trouver un sens à une vie répétitive, mais qu'il faut embellir chaque jour. Le crépuscule est proche, mais il faut continuer encore un peu. Alors Lucky est clairement, comme son titre l'indique, une œuvre assez solaire et apaisée, tout en évoquant un des sujets qui nous angoissent tous, la vieillesse et tout ce que ça comporte d'inconvénients et de pensées morbides. Alors John Carroll Lynch livre une chronique simple sur un homme simple qui va néanmoins traverser une crise existentielle. Ce film bienveillant est avant tout une invitation à partager l'intimité d'un nonagénaire, de passer un peu de temps avec lui, malgré quelques digressions oniriques, dont un passage coloré sur fond de rock, rappelant le cinéma de David Lynch. La caméra suit le personnage et ne fait rien d'autre. Pas d'artifice, d'effet de montage, juste une mise en scène prosaïque, parvenant à toucher grâce à un regard rempli de compassion et de générosité. Alors pas étonnant d'y entendre une des chansons les plus bouleversantes du monde, ici Darkness de Will Oldham, chantée ici par Johnny Cash. Quand on entend ça, on se dit que tout le film pourrait ressembler à une chanson de Johnny Cash. Alors décalé, hors mode et intemporel, Lucky rappelle beaucoup aussi le cinéma de Jarmusch, notamment Broken Flowers pour la réflexion sur le temps qui passe, mais surtout Patterson pour cette manière quasi poétique d'observer ses contemporains avec une tranquillité, une sérénité zen, loin des problèmes qui contaminent la société contemporaine. Alors d'ailleurs, le chaleureux patron de bar est incarné par le même comédien qui jouait dans le Jarmusch, Barry Chakaba Henley. La discussion aussi dans le snack entre Lucky et Fred, le shérif local, interprété par Tom Skerritt, qui jouait Dallas dans Alien, faut-il le rappeler. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard, mais je pense que le film est nourri de beaucoup de références comme ça. Voilà, alors cette séquence, elle prend une tournure mystique, très émouvante. Une rencontre pas si hasardeuse que cela, comme celle avec David Lynch, qui l'a fait tourner quand même dans 3 films, autour d'une discussion d'ailleurs hilarante sur l'évasion d'une tortue centenaire. Ça ne s'invente pas. Alors, tout n'est pas parfait dans ce petit film indépendant, aux propos limités mais généreux, réalisé sans génie, mais toujours en adéquation avec le sujet. Alors, dans quelques mois, on aura sûrement oublié ce délicat récit d'un type sans histoire, qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais été marié, et commence là à avoir peur de la mort. Mais en attendant, le plaisir cotonneux de passer un bon moment en compagnie d'Arlene Stanton est bien présent. Habité par le rôle, on a l'impression qu'il ne joue pas, mais qu'il vit son personnage. Le dernier plan, digne d'un western, voit donc Lucky, pas Lucky Luke, mais on y pense un petit peu, s'éloigner au loin vers l'horizon. Adieu donc Arlene Stanton, qui s'est éteint, je le rappelle, le 15 septembre de cette année, de 2017, à l'âge de, quand même de 91 ans.
Voilà, et il est un peu moins âgé pour le film qui a été tourné auparavant, mais voilà, c'est l'occasion de voir un acteur en pleine possession de ses moyens dans un beau film. Dans les salles le 13 décembre, comme Mariana, dont nous allons parler maintenant avec une interview de sa réalisatrice Marcela Saïd.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Alors, le titre original de Mariana est Los Perros, c'est-à-dire les chiens. Alors, qui sont ces fameux chiens ? Alors, la justice et les journalistes qui traquent sans relâche les criminels qui ont officié sous la dictature de Pinochet, ou les bourreaux eux-mêmes qui se sont infiltrés dans la masse et devenus des gens respectables ? Une ambiguïté réelle imprègne Mariana du début à la fin. La position morale de la réalisatrice est incertaine, laissant le spectateur se dépatouiller avec un film intéressant qui ne manquera pas de susciter des gênes, voire des incompréhensions. Pourtant, elle ausculte au scalpel un pays qui n'a pas encore réglé son passé, toujours dans la culpabilité. Alors Mariana, l'héroïne, si on peut dire, est une quadra issue de la haute bourgeoisie chilienne, enfermée dans un univers patriarcal imposé par son père, un riche homme d'affaires, et son mari. Elle n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle est malheureuse, même plutôt heureuse, mais vit dans un monde protégé, loin de toute réalité sociale et politique, sans jamais prendre son destin en main. Mais sa rencontre avec un prof d'équitation, ex-colonel, suspecté d'exactions pendant la dictature, va bouleverser son petit monde surprotégé. Sa liaison va également jeter un trouble sur le passé de sa famille, pas si innocente qu'elle ne semble l'être. Alors la réalisatrice Marcela Saïd aime les sujets qui dérangent depuis son premier documentaire, I Love Pinochet. Après un long métrage de fiction, L'été des poissons volants, elle poursuit aussi l'exploration d'une thématique forte au-delà des enjeux politiques. Peut-on haïr son père qui a commis des actes répréhensibles ? Un sujet douloureux et intime dont on se doute qu'il n'est pas étranger au parcours de la cinéaste, plus impliquée qu'elle ne le laisse transpirer à l'écran derrière une impression de distance et de froideur. Alors, mais les bonnes intentions ne font pas forcément des grands films. La mise en scène, élégante, grâce à un beau travail sur la lumière, manque néanmoins de folie. Elle me semble trop distanciée. Du coup, l'histoire d'amour entre Mariana et l'ex-colonel me paraît sans grand intérêt. Elle touche pas, l'issue finale laisse quelque peu indifférent. Alors les acteurs, tous remarquables, ne sont pas en cause, mais le regard un peu hautain de la cinéaste empêche l'adhésion. Alors en refusant de prendre parti, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut raconter au final dans cette histoire d'équivocité où la frontière entre le bien et le mal est ténue. L'épilogue s'apparente à une forme de renoncement pour Mariana. Mais là encore, la place de Marcela Saïd est un peu floue, confuse. Alors défend-elle son personnage ou accable-t-elle sa lâcheté et celle de tout un peuple qui veut oublier ? Alors un mystère pour moi qui n'est pas résolu. J'y ai pensé longtemps après quand même au film. Les propos de la réalisatrice vont d'ailleurs dans ce sens, hein, du trouble, de l'indicible, d'un rapport complexe avec le passé effrayant d'un pays comme le Chili. La question reste ouverte, hein, faut-il pardonner à ces milliers de personnes qui pourraient être de notre famille et qui ont encore du sang sur les mains? Alors, au-delà du portrait de femme très réussi, hein, Marina, quand même, bon, je trouve que c'est un film très intéressant sur un sujet quand même sensible, un film assez, assez étonnant, mais je trouve pas complètement abouti.
Alors, eh bien, elle va se défendre, la réalisatrice, enfin, pas se défendre énormément, mais elle va parler d'ailleurs des zones d'ombre qu'elle préfère laisser eh bien, quand elle réalise un film. On écoute Marcella Saïd. Marcella Saïd, on peut peut-être parler du point de départ de votre film avec ce colonel, parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré.
Oui, le film est inspiré du colonel Juan Morales Salgado que j'ai rencontré en 2011 quand on faisait un documentaire qui s'appelle El Mosito avec Jean Desserteaux. Et c'est pas lui El Mosito. El Mosito, c'était juste le jeune homme à tout faire, à servir les cafés dans ce centre d'extermination qui fut le centre d'extermination du Parti communiste, en fait. Et le colonel, à l'époque capitaine, était la personne qui était chargée du centre, du bâtiment logistique. Et parce que hiérarchiquement, c'était lui qui était le plus gradé. Et je l'ai rencontré donc 40 ans plus tard. Il était professeur d'équitation dans une banlieue chic de Santiago. Et à ce moment-là, je l'avais demandé de me donner une interview pour le documentaire. Et il n'était pas trop d'accord. Et puis, j'ai eu cette idée. Enfin, je faisais l'équitation dans un autre centre. J'ai eu l'idée de m'échanger de centre. Et je suis devenue son élève. Il m'a donné finalement l'interview parce qu'on est devenus des amis. Et jusqu'au moment où il est allé en prison.
C'est parce qu'il n'y avait plus de documentaire possible à faire que vous avez voulu en faire une fiction, de vous emparer de ce sujet?
Non, ça n'a rien à voir avec lui directement. Ce n'est pas son histoire. Je suis en train de parler de la complicité des civils dans la dictature. Mes histoires sont complètement différentes. Et puis quand j'ai commencé à écrire, on se rend vite compte que les films parlent, c'est un portrait des femmes. Mmh. C'est pour ça que les distributeurs d'ailleurs en France ont voulu appeler ces films Mariana, même si le titre original c'est Los Perros. Parce que c'est tout d'abord un portrait de femme dans un contexte politique bien, on distingue bien, et avec des personnages réels, tout ça, mais c'est tout d'abord le portrait d'une femme.
Aquí está su caballo, esperándola. Apriétame los muslos ahí, l'autre también.
Ce qui était intéressant, c'était de construire aussi un film en finesse. Je voulais des nuances dans mes personnages, moi. Je voulais travailler les gris, qu'on puisse voir les sons d'ombre, la part d'ombre dans tous ces personnages, et la partie de lumière parfois même. Et même à les hommes, une partie de lumière assez grande à celui qu'on attend les mois, c'est-à-dire les colonels. Faire du colonel un personnage charmant, qui est généreux envers elle, enfin, qui dans cette troupe d'hommes qui l'entoure finalement, est loin d'être les plus mauvais.
Colonel, pouvez-moi parler?
On a commencé à parler du sujet historique et puis quand même donc on parle du personnage féminin. Vous avez tenu à ce qu'elle soit toutes les séquences.
Je mets les spectateurs dans la peau et dans les yeux de Mariana pour pouvoir regarder cette réalité. Et c'était la seule façon de pouvoir aussi avoir une certaine empathie et connaître le personnage au mieux.
Ça supposait quoi quand vous vouliez la filmer? C'est-à-dire en termes de proximité de la caméra, on a l'impression qu'on n'est ni trop proche ni trop loin.
Et en termes de caméra, c'était plutôt la lumière qu'on a vue avec Georges, c'est-à-dire une lumière, on voulait un film assez obscur, et avec une caméra qui respire à l'épaule, qui fait qu'on est un peu en tension tout la longueur du film, et ça produit une sorte de tension permanente qui ne lâche pas les spectateurs. Enfin, on ne les laisse pas reposer. Ce n'est pas une caméra fixe qui laisse juste passer les événements, mais il est comme ça, un peu tendu. Il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent que tout se voit, par exemple. Et moi, je tenais à ne pas tout montrer, mais c'est pour les mêmes sujets. Puisqu'on est dans des sons d'ombre, c'était bien d'avoir de l'ombre. On n'est pas forcé à tout voir.
Marcella Saïd, est-ce que vous êtes nourrie plutôt d'un film pour le personnage de Mariana ou pas du tout?
Pour Mariana, non. Mais quand j'ai parlé à l'actrice de comment je voulais qu'il joue, il y avait une référence, même si c'est assez éloigné. Et je lui ai dit, il faudrait que tu regardes quand même Une femme sous influence. Voilà. Et de Cassavetes, parce que j'aime beaucoup son petit côté borderline, le côté sans filtre. Parce que moi, j'écris quelque chose dans les mots, peut-être qu'on les voit. Autant les hommes et tous ces gens sont un peu cyniques. So, c'est des mots assez qu'ils ont. Quand ils disent leurs mots, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Mariana est plus authentique. Il balance des choses.
Con esto metes a tu viejo en cana. ¿Y qué vas a hacer?
Usted es mucho más valiente de lo que usted cree.
Par rapport au sujet, c'est pas le premier film chilien sur enfin, cette période du Chili. Oui. Est-ce qu'il y a sept films sur le sujet?
Là, c'est un film qui se passe en 2017 déjà. Ça se passe sur cette période-là. C'est juste les fantômes qui traînent.
Mais c'est quand même en parler. Vous êtes d'accord? Enfin, même si c'est le fantôme.
Oui, mais je crois qu'on aura toujours des films comme ça, comme il y a toujours des films sur la Deuxième Guerre ou sur ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Parce que c'est des choses qui marquent très fortement. Peut-être il faudrait attendre quelques générations pour qu'ils n'en parlent plus, parce que ça ne les intéresse plus, sûrement. Mais si vous me demandez à moi et à ma génération, je crois qu'on est plein là-dedans. On a grandi là-dedans. Alors, c'est...
Voilà, c'était la réalisatrice Marcela Saïd pour son film Mariana, avec, entre parenthèses, Los Perros. C'est le distributeur français qui a voulu appeler le film Mariana, parce que c'est aussi un portrait de femme, tout comme les fantômes de la dictature qui reviennent, finalement. Bon, elle voulait insister avec le titre Los Perros, les chiens sur les fantômes, mais... Voilà,
c'est peut-être plus vendeur, Mariana. C'est... Comme il y a déjà eu des films sud-américains, notamment Gloria. Enfin, je me suis dit que ça allait peut-être plus attirer
le
public.
Et c'est un beau portrait. Moi, j'avoue que j'ai vraiment apprécié ce portrait de femme. Je trouve que bon, elle est de tous les plans. Et puis une belle interprétation. Et puis une femme qui va contre les tabous de son milieu, de son histoire, de l'histoire du pays. Enfin, c'est très intéressant. Voilà, on en termine maintenant avec cette émission, avec les Challengers de Star Wars, tous les films quasiment qui sortent le 13 décembre, avec L'Intrusa, film italien.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Il ne s'agit pas d'un film sur la Camorra, mais sur des gens vivant à côté d'elle. Voilà ce que dit Leonardo Di Costanzo, le réalisateur de L'Intrusa, un film se déroulant à Naples dans un centre de loisirs qui accueille des enfants défavorisés. À la tête de ce centre situé dans un quartier délabré, Giovanna, une travailleuse sociale affûtée de 60 ans. Si la Camorra est présente dans l'environnement, elle s'invite également à l'intérieur du centre de manière impromptue, puisqu'un jour, Giovanna accueille la jeune Maria en fuite avec ses deux enfants et qui ne sait plus où aller. Ce que ne sait pas tout de suite la directrice du centre, c'est qu'il s'agit de l'épouse d'un criminel de la Camorra. Cette présence aura tôt fait de déséquilibrer le centre, les parents voyant d'un très mauvais œil la présence de cette femme qui, si elle n'a fait aucun crime, a pour la population du sang sur les mains. Ainsi, la directrice s'est confrontée à un dilemme moral. Soit elle chasse cette femme et ses enfants qui retourneront dans l'univers mafieux, soit elle tente de les préserver au moins un temps. C'est d'autant plus compliqué pour cette directrice de centre aguerrie que la réfugiée n'est pas particulièrement sympathique ni reconnaissante. Mais si elle veut tenir bon et accueillir cette femme et ses enfants, c'est qu'en tant que travailleuse sociale, en tant que femme, eh bien elle estime que son centre doit accueillir tous les enfants et qu'il est un rempart à l'injustice et la violence.
Questo è un posto per i bambini, per tutti i bambini.
Voilà, ça c'était pour entendre bien la musicalité de la langue italienne, hein, puisqu'elle disait à peu près ce que je disais auparavant, le centre accueille les enfants, tous les enfants. Le réalisateur Leonardo Di Costanzo ne choisit pas le sentimentalisme et reste fixé sur son objectif, en délivrant un film bon, plutôt aride, sans artifice, mais qui soulève des questionnements moraux. S'il s'agit bien d'une fiction, elle est extrêmement bien documentée, ancrée dans un territoire qu'on ne voit pas toujours ainsi dans les films sur la mafia, quoique ça aurait pu faire un décor parmi tant d'autres de Gomorra, le fameux film de Matteo Garrone, mais ce film était déjà à part, hein, et c'est pas le genre de décor donc qu'on verrait dans un film de Scorsese, voilà, qui reprend aussi les thèmes de la mafia, notamment. Bon, mais comme l'a dit le réalisateur, ce n'est pas un film sur la mafia, mais davantage sur comment vivre à côté d'elle. L'Intrusa est un film lent, qui manque parfois de rythme, mais la présence des enfants dynamise le récit. Des enfants occupés à construire Mr. Jones, une immense marionnette élaborée à partir de bouts de vélo. Alors une métaphore pour ce centre qui doit faire coexister des enfants de tous les milieux, et même parfois des enfants d'assassins avec des enfants de victimes. Un portrait de la société napolitaine, jamais pesant, jamais exalté non plus, hein, plutôt juste. Si la fiction documentée ne vous effraie pas, si vous aimez la langue italienne, italienne, si vous pensez qu'on peut parler de la mafia et de ses ravages sans montrer un meurtre, si vous êtes adepte de la main tendue ou carrément revêche, eh bien ce film est pour vous. C'est L'Intrusa de Leonardo Di Costanzo en salle depuis le 13 décembre.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Après vous avoir proposé des alternatives à Star Wars, on reviendra la semaine prochaine vous parler de Star Wars, mais aussi de Jumanji, de La Promesse de l'Aube, et on accueillera Marine, qui fera son grand retour dans l'émission. On est contents.